Boston 2011, 11h15. Matthew rentra chez lui, inquiet et abattu. Il ouvrit la porte et découvrit un mot épinglé sur le tableau en liège. « Nous sommes allés faire un tour au marché de Noël de Marlborough Street. Si tu es sage, on te rapportera une bouteille de cidre. On t'embrasse. Emily plus April. » Clovis, le Sharpei, vint se frotter contre sa jambe. Pensif, Matthew lui gratta la tête. Le chien avait renversé sa gamelle d'eau, il la lui remplit tout en réfléchissant. L'ordinateur portable était définitivement hors service, mais il pouvait toujours utiliser le vieux PC de la maison pour lire le disque dur. Il s'installa donc à la petite table marquetée sur laquelle était posé l'ordinateur familial. Il brancha le périphérique que lui avait remis le vieil hippie et commença son exploration. Le support informatique étant presque vide, il ne fut pas long à mettre la main sur le fichier vidéo img5662.move qu'il cherchait. Il lança le film manifestement tourné avec un téléphone portable et resta pétrifié pendant les 3 minutes que durait l'enregistrement. Il n'en croyait pas ses yeux. Kate était blottie contre un homme qu'il ne connaissait pas. Ils s'embrassaient, se caressaient, se lançaient des regards enamourés d'adolescents.
Non !
Il s'empara du premier objet qui tomba sous sa main, un mug en porcelaine débordant de crayons, et le fracassa contre le mur. L'explosion de la tasse effraya Clovis qui se cacha sous la table basse. Matthew ferma les yeux, se prit le visage entre les mains et demeura prostré un long moment, anéanti. Ce n'est pas possible. Il releva la tête. Il devait y avoir une explication. Même les images les plus explicites pouvaient parfois avoir un sens caché. De quand datait le film d'abord? Dans son message, Emma indiquait qu'elle venait juste de le tourner. Il datait donc du matin du 23 décembre 2010, soit un jour à peine avant l'accident et la mort de Kate. Le lieu ensuite. Les boiseries lui rappelaient le Grill 23, ou le McKinty's, dans lesquels il se rendait parfois, mais à y regarder de plus près, le miroir et l'horloge murale ne cadraient pas avec ces deux adresses. Le type, grand, cheveux blonds coupés courts, manteau de cuir noir, le connaissait-il? Peut-être, mais il était incapable de mettre un nom sur son visage. Leur comportement, enfin, le plus insupportable pour lui. Kate aimait cet homme, ça crevait les yeux. Leur complicité était évidente. Leur souffle se mêlait. Leurs deux cœurs étaient parcourus du même frisson. Depuis combien de temps durait cette relation? Comment avait-il fait pour ne pas s'en douter? Il serra le poing, envahi par la colère et une immense déception. Kate, l'amour de sa vie, l'avait trahi et elle ne l'apprenait que maintenant, un an après sa mort. Le sentiment de trahison laissa place au dégoût. Toujours sous le choc, il se traîna jusqu'à la véranda et ouvrit la baie vitrée. Il avait besoin d'air frais, comme un plongeur trop longtemps resté en apnée. Il haleta, ses jambes se dérobèrent sous lui et il se laissa tomber sur l'une des chaises de jardin. Son corps était secoué de sanglots. Des larmes coulaient sur son visage sans qu'il puisse les arrêter. Un goût d'acide monta dans sa bouche. Soudain, un cri jaillit du salon.
« Papa, papa ! On t'a acheté du cidre et des bons hommes en pain d'épices !»
lança Emily en débarquant sur la terrasse. Elle se jeta dans ses bras et il enfouit le beau visage de sa petite fille au creux de son cou tout en essuyant ses larmes avec sa manche. April remarqua sa tristesse et l'interrogea du regard.
« Je te raconterai » articula-t-il en silence pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres.
« Tu as pu faire réparer l'ordinateur, papa ?»
Il secoua la tête. « Non, ma puce. Mais ce n'est pas grave.
« Je suis désolée, »
dit-elle en baissant les yeux tristement. « Ce sont des choses qui peuvent arriver, mon cœur. Tout le monde commet des erreurs. Ça te servira de leçon pour la prochaine fois. »«
Ça, c'est sûr !»
répondit-elle en levant son beau visage vers le soleil. Comme souvent, le trop-plein de luminosité lui donna envie d'éternuer. « À tes souhaits, mon bébé. »«
Je suis plus un bébé !»
Cet éternuement. Matthew plissa les yeux, puis se pétrifia, cloué sur place par un souvenir refoulé qui venait de lui exploser à la figure comme une grenade. 6 mois plus tôt, le 4 juillet 2011, jour de la fête nationale, il avait accepté une invitation de Rachel Smith, une de ses collègues à Harvard, qui organisait un barbecue dans sa résidence secondaire à Cape Cod,
un ancien phare niché sur un bras de mer rocheux, l'océan à perte de vue. Pendant que les hommes s'occupaient des grillades, les femmes papotaient près de l'eau et les enfants jouaient dans le phare sous la surveillance d'une nounou de la famille.
« Qui veut du poulet ? Qui veut des hot dogs ?»
cria la cantonade David Smith, un type sympathique, toujours d'humeur égale, qui travaillait comme médecin généraliste à Charlestown. Immédiatement, les quatre gamines sortirent en courant de leur repère pour se précipiter vers la nourriture. C'était une magnifique journée d'été. Le soleil tapait fort. En arrivant dans la lumière, Émilie mit la main devant sa bouche et éternua à deux reprises.
« Ça lui fait ça à chaque fois qu'elle passe de l'ombre à la lumière, » nota Matthew. « C'est bizarre, non ?»«
Ne t'inquiète pas, » lui dit David. « C'est un phénomène connu. La lumière fait éternuer environ une personne sur quatre. » C'est une particularité génétique bénigne. En médecine, on appelle ça le réflexe photosternutatoire.
Comment tu l'expliques ?
Le médecin remua dans l'air sa longue fourchette à steak comme s'il se trouvait devant un tableau noir.
Bon, tu vois les nerfs optiques. Ils sont situés à proximité d'un grand nerf crânien, le nerf trijumeau qui contrôle la sensibilité de tout le visage.
C'est lui, par exemple, qui permet la production de larmes et de salive, ainsi que les expressions du visage. Et c'est ce nerf qui déclenche les éternuements.
« D'accord, » acquiesça Matthew.
David continua en pointant le soleil. « Lors d'un afflux brutal de lumière, il y a chez certaines personnes une sorte d'interférence entre ces deux nerfs. La luminosité stimule le nerf optique qui court-circuite le nerf trijumeau et provoque l'éternuement.
« Comme de fil électrique ?
T'as tout compris, mon pote. »
Et tu es certain que ce n'est pas grave ?
Absolument, c'est juste une petite anomalie congénitale au niveau du nerf crânien. D'ailleurs, tu dois toi-même avoir ce problème, non ?
Pas du tout, je n'ai jamais ressenti ça.
Alors Kate devait l'avoir, c'est sûr.
Pourquoi ?
C'est ce que l'on appelle un trait génétique de transmission autosomique dominante. Ce qui signifie que toute personne atteinte de cette anomalie a au moins un de ses parents atteint. Donc, si ce n'est pas toi, c'est obligatoirement Kate. Tiens. Prends ton steak avant qu'il ne brûle.
Matthew avait hoché la tête et s'était éloigné quelques instants. Pensif. Pendant 4 ans, pas une seule fois il n'avait vu Kate éternuer à la lumière.
Papa, regarde mon gros hot dog !
Cria Emily en se jetant dans ses bras, en voyant dans son élan une belle giclée de ketchup sur la chemise de son père.
Oh !
Ce n'est pas grave. Mais attention, chérie, tu fais des gestes trop brusques.
Il essuya la tache de sauce tomate sur son vêtement, tout en repensant à ce que venait de lui raconter le médecin. Puis il choisit de ne pas se tracasser avec ça et refoula cet épisode très loin dans sa mémoire.
Maintenant, cette scène lui revenait brutalement à l'esprit. Retour au présent. Retour à la colère, à la sidération. À la détresse surtout. Un doute atroce s'instillait en lui. Et si Émilie n'était pas sa fille ? Il se refit le film à l'envers. Il avait rencontré Kate en octobre 2006. D'après ce qu'elle lui avait laissé entendre, Émilie avait été conçue le 29 octobre. Elle était née 8 mois plus tard, le 21 juin, le jour de l'été. Un bébé prématuré d'un mois, c'était commun. Sauf qu'Émilie n'avait rien d'une prématurée. 3,4 kg à la naissance, grande de 52 cm, elle n'était pas restée longtemps en observation à l'hôpital. Mais là encore, tout à sa joie d'être père, il ne s'était pas embarrassé de ces détails.
« Ça va, papa ? Tu veux goûter ton pain d'épices ?»
La question d'Émilie ne le sortit pas tout à fait de ses pensées. « Plus tard, chérie, » marmonna-t-il. Il se tourna vers April et sans lui donner la moindre explication, lui annonça « Il faut que j'aille faire une course. »
Boston, 2010, 12h30. Le taxi abandonna Emma sur Somerset Street, au cœur de Wattapan. Situé à l'extrême sud de Boston, le quartier n'était pas le genre d'endroit auquel les guides touristiques consacrent plusieurs pages. À cause de la neige, les rues étaient presque désertes. Emma ne s'y sentit pas en danger, mais le décor n'était pas des plus reluisants. Des petits immeubles en briques en attente de rénovation, des entrepôts, des maisons aux toits de tôle, des murs saturés de graffitis et des palissades entourant des terrains vagues. En remontant l'avenue à la recherche de la patinoire, elle croisa un groupe de clochards qui squattaient le trottoir pour se réchauffer autour d'un brasero en descendant des canettes de bière dissimulées dans des sacs de papier Kraft.
Des insultes imbibées d'alcool fusèrent sur son passage, mais il en aurait fallu plus pour l'intimider ou la faire renoncer. Enfin, elle arriva devant le bâtiment de la patinoire municipale. Un gigantesque hangar métallique à la façade repeinte par les tags des lascars du quartier. Emma s'y engouffra. Elle acheta un ticket pour pouvoir pénétrer dans la salle, mais descendit directement dans les gradins sans passer par les vestiaires. Des cris d'enfants résonnaient bruyamment dans l'enceinte. Sur la glace, une moitié de la surface était réservée à un groupe d'écoliers de 6 ou 7 ans qui suivaient un cours d'initiation au hockey dispensé par un jeune moniteur. Deux institutrices accompagnaient la séance, relevant les gamins qui chutaient, fixant leurs patins, réajustant leurs casques ou leurs protège-tibias. Emma s'approcha au bord de la surface verglacée. Parmi les deux monitrices, elle reconnut immédiatement Sarah Higgins. Elle avait coupé ses cheveux très courts et perdu encore quelques kilos. Vêtue d'une paire de jeans et d'un pull à grosses mailles, elle avait évidemment un peu vieilli par rapport aux photos.
« Madame Shapiro ?»
Elle se retourna brusquement, comme sous le choc d'une décharge électrique, et fixa Emma, sidérée. Depuis quand ne l'avait-on plus appelée comme ça ?«
Qui êtes-vous ?»
demanda l'institutrice en patinant pour se rapprocher du bord.
« Une amie de Matthew. Je crois qu'il a des ennuis et j'aimerais l'aider. » « Ça ne me regarde pas. Vous avez 5 minutes à m'accorder ?»«
Pas maintenant. Vous voyez bien que je travaille. » »«
C'est vraiment important, » insista Emma.
Sarah poussa un soupir de résignation.
« Il y a une sorte de buvette un peu plus haut. Allez m'y attendre. Je vous y rejoins dans un quart d'heure. »
20 minutes plus tard. « J'ai été marié presque 10 ans avec Matthew, mais je le connais depuis plus longtemps encore, » commença Sarah avant de prendre une gorgée de thé. Assise devant elle, Emma l'écoutait avec attention en triturant nerveusement la paille qui flottait dans son verre de coca. Nous nous sommes rencontrés en 1992 sur les bancs de l'Université du Massachusetts. Matt étudiait la philosophie et moi les sciences de l'éducation.
Un coup de foudre ?
Disons que c'était davantage une attirance intellectuelle. Nous avions lu les mêmes livres, partagions les mêmes idées, les mêmes préférences politiques. Nous nous sommes d'ailleurs embrassés pour la première fois le soir de la première élection de Bill Clinton. Nous étions tous les deux bénévoles dans son comité de soutien. Sarah détourna la tête et ferma brièvement les yeux. Tout cela paraissait si loin aujourd'hui. Emma la relança.
« Vous vous êtes séparés il y a 4 ans, c'est bien ça ?»«
Un peu plus. Tout cela était très brutal en fait, très inattendu. Votre couple traversait une mauvaise passe ?»«
Même pas. Nous vivions tranquilles, nous étions heureux. Moi, du moins, je l'étais. » »«
Matthew est parti du jour au lendemain ?» Sarah eut un rire nerveux.
C'est l'expression qui convient, en effet.
Un soir, il est rentré à la maison, il m'a avoué qu'il avait rencontré une femme, qu'il en était amoureux et qu'il voulait vivre avec elle. Il était déterminé, sûr de lui. Il ne m'a pas laissé le choix.
Cette femme, c'était Kate ?
Bien sûr. Il l'avait rencontrée quelques jours plus tôt à l'hôpital. Il s'était blessé avec un sécateur en jardinant et c'est elle qui l'avait soigné.
Et dire que c'est moi qui avais insisté pour le conduire aux urgences ce jour-là.
Matt prétendait que c'était 3 fois rien et ne voulait pas y aller.
Emma ne put s'empêcher de la bousculer.
Vous ne vous êtes pas battue pour le retenir ?
Sarah haussa les épaules.
Vous avez bien regardé cette femme ?
Je n'avais pas les armes pour lutter. Elle était plus jeune, plus belle, plus brillante que moi. Et puis, pendant des années, nous avions essayé sans succès d'avoir un enfant. Alors ?
Sa voix s'étrangla, mais elle poursuivit.
Matthew est quelqu'un de romantique et d'idéaliste. Lorsqu'il a rencontré Kate, il s'est persuadé d'avoir trouvé son âme sœur. Et apparemment, elle aussi l'aimait. Peut-être même plus que moi. En tout cas, elle savait mieux le lui montrer. À présent, des larmes brillaient dans ses yeux. Pendant quelque temps, j'ai espéré que tout ça ne soit qu'une passade, puis lorsque j'ai appris que Kate était enceinte, j'ai compris que tout était définitivement fini entre Matt et moi.
Soudain, le groupe d'enfants envahit la buvette dans une clameur. Sarah regarda sa montre et se leva.
« Bon, je dois y aller.
Pourquoi prétendez-vous que Matthew a des ennuis ?»«
Je ne peux pas vous le dire encore.
Vous êtes resté en contact avec lui ?»
Sarah secoua la tête.
« Vous plaisantez ?
Ces dernières années ont été cauchemardesques et je commence à peine à me remettre de ce divorce. » Je n'ai plus adressé la parole à Mathieu depuis 4 ans et j'ai bien l'intention de continuer ainsi.